RCF.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de ce samedi. À vous la parole. Nous devons-nous avoir peur des ondes électromagnétiques ? La question n'est pas nouvelle, mais le débat est toujours d'actualité. Les éléments de réponse évoluent au gré des études scientifiques qui sont menées en France, mais aussi en Europe, ainsi qu'à la lumière des témoignages des personnes électrosensibles qui sont de plus en plus nombreuses à se manifester, soutenues par une partie des médecins et par des associations. Très récemment, le dictionnaire Larousse a apporté de l'eau au moulin des défenseurs de l'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques en intégrant, dans sa nouvelle édition, le mot « électrosensibilité », une avancée notoire du phénomène attribué au téléphone portable ou à la Wi-Fi en particulier, pour les partisans de cette thèse, et nous en parlerons sûrement avec nos invités. Mais ce n'est pas seulement cela. Nous allons donc revenir sur ce thème pendant cette émission et je vais vous présenter mes invités, que je remercie déjà d'être sur le plateau, mais non sans vous avoir rappelé que notre émission, à vous la parole, est la vôtre. Vous êtes attendus sur nos ondes pour nous présenter, pour nous donner vos remarques ou vous nous poser vos questions en nous appelant au 04 75 78 14 64. 04 75 78 14 64 ou, si vous préférez, en nous adressant un mail à l'adresse suivante à vous la parole, en minuscule attaché, @rcf.fr à vous la parole, @rcf.fr. C'est Baptiste Lodéon qui, ce matin, est à la technique et réalise cette émission qui nous passera vos interventions, bien sûr, vous êtes prioritaires. Alors, nos invités ce matin, je vous les présente. Marie-Christine Dubois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes électro-hypersensible et vous êtes secrétaire de l'association Poème 26.
Oui, c'est ça, depuis un an.
Alors, en quelques mots, pouvez-vous nous dire quel est le but de cette association et ce qu'elle est ?
Donc, l'association Poème 26, donc Poème 26, le P pour prévention, O, onde, E, électro et M magnétique, prévention ondes électromagnétiques, et 26 pour la Drôme. Donc cette association a été créée en 2011. Elle fait suite à une rencontre de deux collectifs, un collectif SOS Antenne Relais Bourg de Péage et un collectif Brasilia qui a été constitué en 2010 suite à l'installation d'une antenne relais sur cet immeuble. Donc, la présidente de l'association, c'est Catherine Nérand, qui est elle-même électro-hypersensible, qui a une fille électro-hypersensible, et elle travaille en qualité de kinésithérapeute méthode Mézières. L'association est reconnue d'intérêt public depuis 2014. Mmh. Elle reçoit des subventions de la ville de Romans. Et elle a été lauréate d'un appel à projet qui a permis de faire une plaquette informative qu'on distribue largement et qui est plus destinée aux jeunes, mais s'adresse éventuellement et à tout le monde, bien évidemment, est intitulée « Avec le sans-fil, ta santé ne tient qu'à un fil ».
Merci beaucoup. Nous reviendrons bien sûr avec vous sur vos difficultés de santé, vos problèmes de santé dus à votre électro-hypersensibilité. Vous nous apporterez votre témoignage tout à l'heure, ainsi que Monsieur Jean-Michel Garnier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous aussi, électro-hypersensible et vice-président de l'association Une Terre pour les électro-hypersensibles. Vous pouvez nous présenter en quelques mots votre association ?
C'est une association qui milite pour la création de zones blanches, déjà, et qui milite également pour la reconnaissance de l'électro-hypersensibilité. Alors, elle travaille avec les MDPH. Nous avons un groupe de travail constitué avec notamment la MDPH de la Drôme.
Pardon, la MDPH, ça veut dire ?
Maison départementale des personnes handicapées.
D'accord, oui.
Une par département, ouais. Voilà. Fédérée par la CNSA, la Caisse nationale. J'ai oublié les deux CNSA. Bon, qui fédère, c'est une caisse qui fédère les MDPH, qui n'a pas de lien hiérarchique avec elle, mais qui, en fait, essaye d'harmoniser les décisions des équipes pluridisciplinaires qui travaillent dans les MDPH pour... sur les dossiers de demande de handicap.
Donc dans le département de la Drôme, tout cela.
Les MDPH sont départementales, mais nous travaillons particulièrement avec la MDPH de la Drôme, oui.
D'accord.
Et son directeur, Monsieur Paquet.
Merci. Michèle Rivesi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée européenne d'Europe Écologie Les Verts. Il n'est pas bien nécessaire de vous présenter puisque vous connaissez bien la Drôme dont vous êtes originaire. Mmh. Nous vous connaissons bien. Vous êtes donc, vous êtes élue de la circonscription du Sud-Est. Vous avez été élue une première fois en 2009 et réélue en 2014. Mmh. Vous êtes aussi conseillère municipale de Valence. Vous êtes agrégé de biologie, vous avez enseigné à Grenoble, je crois. Mmh. Je ne sais pas si vos activités vous permettent encore d'enseigner aujourd'hui.
Ah non,
vous nous direz
exclu.
Ça. D'accord, oui, j'imagine. Vous êtes fondatrice de la CRIRAD, Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, et présidente de la CRIREM, Centre de recherche indépendant sur les rayonnements électromagnétiques, le sujet donc de notre émission aujourd'hui. Je rappellerai aussi que vous êtes auteur de plusieurs livres, dont « Ce nucléaire qu'on nous cache » en 1998 et « Survivre au téléphone mobile et au réseau sans fil » en 2009 avec Catherine Gouillet et Maxence Laillé. Voilà. J'ai peut-être oublié des choses que vous souhaiteriez dire.
Non, mais je me bagarre sur ce sujet depuis 2005, quand j'ai créé le CRIREM avec justement Monsieur Leruse et Madame Gouillet, parce que il y a eu une explosion en fait des téléphones portables, surtout dans les années 2000. Mmh. Et les gens qui faisaient les mesures, mais c'était des gens qui étaient très liés aux opérateurs téléphonie mobile. Ouais. D'où la nécessité, vous voyez, la CRIRAD au moment de Tchernobyl. Et là, on s'est dit, il faut avoir absolument un organisme de mesure indépendant.
Voilà.
Mais c'est encore un sujet très très difficile à aborder parce qu'il y a beaucoup d'intérêts en jeu.
On va y revenir tout au long de cette émission. Merci. Docteur Luc Gabriel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, urgentiste, et vous représentez ce matin autour de notre table UFC Que Choisir.
Tout à fait. Et donc, je vous rappelle que c'est une association de consommateurs qui est indépendante de tout lobby. C'est ce qui fait ses difficultés de vie, mais aussi sa richesse. C'est une association indépendante, alors qui a fait un dossier sur le sujet le 30 septembre 2008, qui s'appelait « Ondes électromagnétiques, un champ d'incertitude ». Et donc, 7 ans plus tard, le Que Choisir a publié un nouveau dossier dans le numéro 532 de janvier 2015, page 22, qui s'intitule « Ondes électromagnétiques, le jeu trouble des associations ». Donc, on aura l'occasion de parler de ce dossier sur ce sujet.
Je pense, absolument. Voilà. Merci, docteur. On y reviendra, bien sûr. Peut-être en introduction, j'aurais souhaité que l'on précise pour nos auditeurs ce que sont ces ondes électromagnétiques. Est-ce qu'on peut les définir, d'abord, sans rentrer dans un langage trop scientifique, et surtout dire quelles en sont les sources ? Qui est-ce qui veut répondre?
Déjà, on peut dire... Pardon.
Oui.
Non, mais vas-y.
Non, simplement...
Monsieur Garnier.
Dire qu'une chose importante, c'est que les ondes électromagnétiques qui sont utilisées pour la téléphonie mobile, d'une façon générale, sont des ondes artificielles. Hein, qu'il existe bien des ondes électromagnétiques naturelles que l'homme supporte depuis des millions d'années. En revanche, les ondes artificielles, c'est bien celles qui sont utilisées par la téléphonie mobile et qui nous heurtent, nous, en tant qu'électrosensibles, parce qu'elles entrent en interférence avec nos propres champs électromagnétiques naturels.
D'accord.
Oui, moi je voudrais Michel dire que quand même c'est une association d'un champ électrique et d'un champ magnétique et c'est défini par rapport à des fréquences. Vous voyez, il y a différents types de fréquences. C'est un ensemble assez complexe, les ondes électromagnétiques. Alors pour les gens, je voudrais le visualiser en disant, vous voyez, quand vous avez un appareil radio qui fonctionne et votre portable qui sonne, vous voyez que ça grésille. C'est, vous voyez, ce qu'on appelle l'incompatibilité électromagnétique. C'est des ondes qui vont percuter d'autres ondes qui viennent de votre appareil radio. Donc, ça ne se voit pas, mais il y a des gens qui les ressentent, c'est les vigies, c'est ce qu'on appelle les électro-hypersensibles. Et de plus en plus, notre monde est connecté. Vous voyez, vous avez, par exemple, vous voulez écouter la télévision, et avant, vous vous leviez pour changer de chaîne. Maintenant, ça ne passe que par ces ondes. Le bruit est une onde, vous voyez, qui est définie par rapport à une fréquence. Là, c'est deux champs, vous voyez, un champ magnétique et un champ électrique. D'où l'électromagnétisme.
D'accord.
Je voulais dire à nos auditeurs que le dossier de Que choisir, de récent, de janvier 2015, présente un petit graphique très simple montrant quelles sont les différentes sources, les fréquences et les différentes sources de ces fréquences qui vont à des fréquences très, très lentes, de l'ordre de quelques hertz, à des gigafréquences de l'ordre de 10 puissance 23 hertz. Donc voilà, si les auditeurs sont intéressés, ils peuvent trouver ces renseignements-là. Alors, puisqu'on parle d'ondes, je m'intéresse beaucoup à la prévention, et il y a des ondes qui sont extrêmement dangereuses, et vous parliez des jeunes, ce sont les ondes sonores. Et vous savez que les jeunes font un usage extensif d'écouteurs, ils ont tout le temps dans les oreilles des écouteurs, et donc on observe une épidémie de surdité, et l'avenir va être quand même assez difficile pour tous ces jeunes, parce que on note vraiment une baisse de l'audition extrêmement importante. Alors, qu'est-ce que ça va donner quand ces jeunes seront adultes? Donc, ça fait partie des soucis
que
notre société peut avoir, des problèmes de santé de façon plus large, et qui touchent énormément de monde. Ouais. Alors que l'électrosensibilité, heureusement, ne touche quand même que quelques milliers de personnes.
Je suis désolé de vous contredire, docteur, mais l'électrosensibilité, nous sommes tous électrosensibles. Excusez-moi.
L'hyper-électrosensibilité. Excusez-moi.
L'électrosensibilité, nous sommes tous électrosensibles. Le premier électrosensible, c'était bien Nikola Tesla, qui, dans les années 1880, a travaillé justement sur on peut dire que c'est le père de l'électricité.
Oui, tout à fait.
Et qui est devenu le premier électrosensible, et hyper-électrosensible. Sa souffrance est décrite dans la littérature.
J'aurais dû dire hyper électrosensible.
Voilà, je crois qu'il faut être clair. Ouais. Il y a 15% de la population, 5% on va dire, 5 à 10% de la population européenne qui est électrosensible, vraiment déclarée. Mais nous le sommes tous électrosensibles.
Mm-hmm. Michel Rivetti.
Oui, non, mais je voulais juste dire, tout à l'heure j'ai parlé des fréquences. Vous voyez, vous avez les basses fréquences comme les lignes haute tension, comme le courant électrique, qui est autour de 50 Hz pour le courant électrique. Mmh. Et puis, vous avez les hyperfréquences, vous voyez, donc, qui sont très, très nombreuses dans un temps très court et qui touchent justement ce qui est portable, ce qui est radar. Voilà. Il faut bien voir qu'il y a plusieurs choses. Et c'est vrai qu'il y a des études, par exemple, sur les lignes haute tension qui ont montré, notamment les études de Draper en Angleterre, qui ont montré que plus on se rapprochait, vous voyez, des lignes haute tension, plus il y avait des cas de leucémie. Oui. Et au niveau maintenant des hyperfréquences au niveau du portable, moi j'ai invité d'ailleurs au Parlement européen Marcolini, qui était un commercial, où la première fois d'un point de vue justice, il y a eu une corrélation entre l'utilisation de son portable et une tumeur au niveau de son nerf auditif.
Oui.
Puisque quand il téléphonait à ses clients, eh bien on lui avait supprimé le téléphone fixe et il n'avait que son téléphone portable. Oui. Et c'est pour ça que de plus en plus on informe. Alors tu parlais je parle au docteur Gabriel qui parlait des écouteurs au niveau des jeunes, mais les jeunes, ils utilisent énormément le portable. Et d'autres études européennes ont montré que plus on utilise le portable, plus on a des risques de déclencher des tumeurs au niveau du cerveau. Donc, soyons très précautionneux, vous voyez, sur cette utilisation intensive.
Docteur.
Alors, je vais peut-être un peu en dehors du sujet, mais vous savez qu'une préoccupation majeure, c'est l'épidémie d'obésité. Or, il a été tout à fait prouvé qu'il y avait une corrélation entre le temps passé à pianoter. Moi, mes petits-enfants, malheureusement, jouent toujours sur des jeux sur leur portable. Donc, il y a une corrélation extrêmement nette entre le temps passé devant des écrans et l'obésité.
Sûr. Donc,
c'est un problème d'activité physique.
C'est encore autre chose, un problème de santé publique, mais
oui,
un autre sujet. Moi, je voudrais que l'on revienne sur les machines, le matériel, si vous voulez, qui crée qui porte atteinte à l'hypersensibilité. Est-ce qu'il faut qu'il y ait le portable, la Wi-Fi, est-ce que vous pouvez nous dire, les uns à côté des autres ou qui fonctionnent en même temps, le micro-ondes, pourquoi, quand on est dans sa maison? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, Monsieur Carnier.
Oui, en fait, électrosensibles, une terre pour les EHS ou toutes les associations qui militent contre les champs électromagnétiques, on n'est pas contre, l'Internet, on n'est pas contre les réseaux sociaux, on n'est pas contre tout ce qu'on peut utiliser pour nous faciliter la vie, soit professionnellement, soit de façon privée. En revanche, ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que la technologie sans fil est une technologie qu'on peut facilement contourner, c'est-à-dire qu'on peut recâbler à la maison son ordinateur, on peut se passer du téléphone portable ou du moins utiliser un kit piéton. Enfin, on peut prendre des précautions utiles pour ne pas s'exposer, comme le fait en général la population d'une façon générale, oui. Mmh. Et on peut recâbler chez soi et on peut éviter, comme le dit Madame Rivasi, que tout soit connecté.
Ouais, d'accord. Et les études récentes apportent la preuve très précise de cette corrélation entre les appareils et l'hypersensibilité. J'ai vu beaucoup de.
C'est quand même un sujet très controversé. L'Agence européenne de l'environnement, donc à Bruxelles, a sorti un rapport qu'on appelle Bioinitiative, où ça recense à peu près 1800 études. Dans ces 1800 études, ce dont on est sûr, c'est que les ondes électromagnétiques entraînent des effets biologiques, c'est-à-dire des effets, par exemple, sur le transfert du calcium, des effets, par exemple, sur le système nerveux, des effets sur les hormones vis-à-vis de la mélatonine, des effets sur le système immunitaire. Donc ça, vous voyez, on peut le vérifier, c'est reproductible en laboratoire. Toute la polémique, c'est est-ce que des effets biologiques peuvent entraîner des effets sanitaires ? Alors, il y a toute une série d'études qui montrent que ça peut enclencher des effets sanitaires. Par exemple, des gens qui sont soumis aux ondes électromagnétiques ont des insomnies, ont des problèmes cognitifs, ont des problèmes de mémoire, ont des problèmes de malaise, ont des problèmes dépressifs, ont des problèmes même cutanés. Bon. Mais il y a d'autres études, souvent d'ailleurs financées, parce qu'il y a un gros problème de conflit d'intérêts dans ces études, financées par les opérateurs de téléphonie mobile qui disent « mais non, mais il n'y a aucun souci, circuler, il n'y a rien à voir ». Sauf que même maintenant, les opérateurs commencent à dire « attention, vous êtes enceinte, mettez pas le portable sur le ventre parce que ça peut avoir des effets sur le fœtus ». Maintenant, on dit, et ça, c'est les opérateurs qui le reconnaissent, mais vous voyez, il faut du temps, il a fallu des lanceurs d'alerte pour dire « n'utilisez pas de façon intensive votre portable ». Le Wi-Fi, et ça, il y a eu des cas à Paris, dans la bibliothèque de Paris, où des femmes étaient à proximité de sources de Wi-Fi et elles avaient des malaises. Et donc, on a changé leur poste pour pas qu'elles soient au niveau du Wi-Fi. Donc, on sait qu'il y a des gens, comme ça a été dit, on est tous un peu électrosensibles, mais il y a des gens qui sont encore plus sensibles, d'où les électro-hypersensibles.
Absolument.
Mais j'avoue que c'est un sujet complexe, il y a une polémique, mais en tout cas, maintenant, on est sûr que ces électros hypersensibles existent, qu'ils ont vraiment des problèmes énormes de santé et qu'ils sont obligés de fuir notre société. Donc, ils sont complètement discriminés parce qu'ils ne peuvent pas vivre dans le cas de la pollution électromagnétique auquel on est soumis et qu'on subit. Vous voyez, c'est pas une pollution choisie, c'est une pollution subie. Vous êtes en face, et vous, Madame Balzan, à Valence, on a vu des antennes dont le lot principal était dans des appartements et les gens pouvaient recevoir de 5 à 10 volts. Et alors, on a un gros souci, c'est les normes. Parce que ces normes, par qui elles ont été établies ? D'abord par l'ICNIRP, qui est la Commission internationale de protection contre les rayonnements électromagnétiques, où là, ce sont pratiquement tous des gens liés aux opérateurs téléphonie mobile. Donc, il fallait des normes où la technique puisse marcher. Bon, donc c'est pas du tout des scientifiques indépendants. Après, il y a eu les recommandations de la communauté européenne, qui a fixé des recommandations en fonction des fréquences, mais qui sont très hautes. C'est 41 volts pour 900 MHz, c'est 58 et c'est 61 volts. Donc, c'est des normes très hautes qui font que si jamais on était à proximité des antennes, vous voyez, on a vraiment des soucis de santé. Et puis après, il y a les États. Et notamment la France a établi un décret qui correspond à ces recommandations. Mais elles sont que pour des effets thermiques. C'est-à-dire quand, et les gens peuvent le comprendre, quand vous avez votre portable, au bout de 10 minutes, vous avez l'oreille qui chauffe. Voilà, c'est ça les effets thermiques. D'accord. Mais on s'est aperçu par la recherche, justement, ce rapport Bioinitiative, qu'il y a aussi des effets athermiques. C'est-à-dire que c'est pas lié à la température. Ça peut jouer sur les synapses, sur le système nerveux, sur le système hormonal, etc. Et là, à l'heure actuelle, il y a de plus en plus d'études qui montrent que les effets, eh bien, ça peut occasionner des troubles au niveau des gens. Et que c'est un phénomène général, puisque on est tous soumis à une pollution électromagnétique de près ou de loin.
Tout à fait. C'est mondial. Voilà. C'est mondial.
C'est mondial, oui, c'est vrai. Je pense que nous allons faire une première pause musicale, si vous voulez bien, avec Georges Moustaki, qui nous chante « Solitaire ».
Je promène ma galère dans les eaux calmes de l'errance solitaire, sans état d'âme et sans souffrance, ma voile est gonflée de mystère, ma cale est remplie d'innocence solitaire. Sur les vagues de la violence, je n'affronte ni je n'adhère, ma révolte est sans impatience, et je promène ma galère dans les eaux calmes de l'errance solitaire. J'ai choisi de plutôt me taire et n'écouter que le silence solitaire. Je prends la mer avec aisance, et quand je mets les pieds sur terre, je m'aventure avec prudence et je promène ma galère. Solitaire, au large de toute espérance, sans rien à faire ou à défaire, je vogue au fil de l'existence. Solitaire, marin de la dernière chance, j'ai noyé toutes mes colères au profond de l'indifférence, et je promets ma galère, corne de brume et d'abondance solitaire.
Je vous rappelle que nous parlons ce matin des ondes électromagnétiques. Devons-nous avoir peur des ondes électromagnétiques? Voilà le thème de notre émission ce matin, avec Marie-Christine Dubois, qui est électro-hypersensible et secrétaire de l'association Poème 26, Jean-Michel Garnier, électro-hypersensible également, vice-président de l'association Une Terre pour les électro-hypersensibles, Michel Rivasi, députée européenne et conseillère municipale de Valence, et le docteur Luc Gabriel, médecin urgentiste et représentant l'association UFC Que Choisir. Je voudrais vous rappeler aussi que nous attendons vos questions et vos remarques à notre téléphone au 04 75 78 14 64 ou envoyez-nous un mail par à vous la parole @rcf.fr, à vous la parole @rcf.fr. Nous avons, je crois, une question. Baptiste nous dit qu'un auditeur nous pose une question. On va lui laisser la parole, bien sûr.
Alors oui, c'est Jean, du coup, qui nous demande quelles sont les parties du corps les plus sensibles aux ondes.
Monsieur Garnier ?
Oui, je pense que la partie du corps la plus exposée, qui pose le plus de problèmes, c'est tout de même le cerveau. Oui. Mmh. Hein, dans le cerveau, on sait qu'il y a des milliards de cristaux de magnétite, qui agissent un petit peu comme lorsqu'elles sont exposées à de l'électricité ou des champs électromagnétiques, comme la petite aiguille d'une boussole, c'est-à-dire ça crée des désordres forcément. Hein. Mmh. Et puis le professeur Belpomme, donc de l'ARTAC, qui fait des recherches sur l'ARTAC, sur la recherche du cancer, ouais. Enfin.
C'est une agence internationale,
internationale. Oui. On va vous le redire tout à l'heure, oui. L'ARTAC. Mmh. Hein. D'après ses recherches, il dit que la barrière hémato-encéphalique, donc celle qui protège le réseau sanguin du cerveau, s'ouvre. Sous l'exposition des champs électromagnétiques. Donc, il laisse passer des substances qui n'ont rien à y faire dans le cerveau, y compris des métaux lourds, du mercure, etc. Quoi, hein. Donc, je pense, pour répondre à l'auditeur, que la partie la plus à protéger, on va dire, c'est le cerveau. C'est celle qui pose le plus de problèmes pour les électrosensibles.
Hein. D'accord.
Je confirme tout à fait. On parlait de la barrière hémato-encéphalique. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que il y a eu des expériences qui ont montré que les rayonnements pouvaient casser les molécules d'ADN Et ça, ça serait justement une des explications pour l'augmentation, vous voyez, de ces tumeurs dont je parlais tout à l'heure avec une exposition intensive du portable. Donc, voilà, la question, c'est le cerveau. Et donc, plus le cerveau a une fine protection au niveau des enfants, plus les rayonnements vont traverser le cerveau de l'enfant. D'accord. Donc, vous voyez que lorsqu'on va parler après de la précaution et de la prévention, vraiment les enfants, le fœtus, les petits-enfants, lorsque, vous voyez, au niveau de la boîte crânienne, elle est très fine, eh ben, les ondes vont passer vont de façon très importante.
Je veux juste rajouter juste une petite chose, c'est qu'actuellement, en milieu urbain, on a à peu près une vingtaine de Wi-Fi qui traversent les appartements et les bébés sont exposés à une vingtaine de Wi-Fi, à peu près en moyenne.
Ouais, donc, attention aux tout petits. Docteur Gabriel.
Oui, je voulais dire justement que pour ces Wi-Fi, là, on a des appareils de détection extrêmement sensibles. Et effectivement, quand on ouvre son ordinateur, on constate partout qu'il y a beaucoup de réseaux Wi-Fi qui sont présents, mais ils sont présents à des intensités extrêmement faibles. Alors, pour ce qui est des cancers, par exemple, l'étude Interphone, qui portait sur 6600 cas de tumeurs cérébrales, n'a établi aucun lien entre ces tumeurs cérébrales et l'usage du portable. Alors, on est dans un domaine de polémique extrêmement important. Ça peut évoluer. Et donc, j'ai trouvé dans le premier dossier de Que Choisir, le dossier que je citais du 30 septembre 2008, il y a page 8, page 4, tout un tas de précautions, très faciles à prendre. Voilà. Donc, je pense qu'il est raisonnable de les prendre. D'accord. Et en particulier, il parle justement de l'usage des portables chez les tout-petits, qui est vraiment
Je voulais rappeler
quand même un autre truc, c'est que c'est pas les ondes électromagnétiques, mais je m'intéresse à la pathologie routière. Vous savez que la première cause de mortalité en Rhône-Alpes chez les jeunes de 15 à 25 ans, c'est le portable, et qu'on a encore beaucoup d'accidents sur les routes, malheureusement, et l'utilisation du portable est strictement impossible avec la conduite. La conduite nécessite une concentration extrêmement forte. C'est un sujet important qui est peut-être en dehors des choses, mais c'est vrai que c'est responsable de morts et de blessés très graves. Ouais. Donc, n'utilisez pas vos portables dans la voiture.
D'accord.
Oui, en plus de l'exposition qui est importante.
Je voulais juste rappeler au docteur Gabriel qu'en 2002, l'Organisation mondiale de la santé a classé les ondes d'extrême basse fréquence comme cancérigènes possibles. Et en 2011, les radiofréquences ont connu le même classement. Donc, vous voyez, moi, c'est pas Que Choisir pour moi la référence. C'est quand même l'Organisation mondiale de la santé qui a classé ces ondes comme possiblement aussi bien. Alors, vous voyez, les ondes 2B, c'est comparable au DDT, c'est comparable au bisphénol, etc.
Au café.
C'est les lobbies qui disent ça. Quand même, docteur Gabriel, vous n'allez pas être le suppôt quand même des lobbies de téléphonie mobile.
Priorité à nos auditeurs, nous avons un nouvel appel. Jean-François, bonjour Jean-François.
Bonjour, c'était pour savoir si il y avait un danger au niveau du Wi-Fi dans les écoles et les collèges, puisqu'il y a une généralisation de l'implantation du Wi-Fi dans les collèges et dans les écoles primaires. Donc c'était pour savoir s'il y avait un danger ou pas.
D'accord, merci. Donc le danger des Wi-Fi dans les collèges et les lycées, qui veut répondre?
Moi je veux bien répondre. Madame Dubois. En fait, donc les ondes électromagnétiques ont été classées comme potentiellement cancérigènes. Il y a la loi Abeille qui est sortie en février et qui interdit le Wi-Fi dans les zones d'accueil de très jeunes enfants. Nous, au niveau de POEM 26, on est en train d'envoyer des courriers aux établissements scolaires pour prévenir du danger. Je ne parle pas de risque, je parle de danger des ondes électromagnétiques pour les enfants et les adolescents.
D'accord. Donc, il y a la loi là.
Alors, la loi, elle est très stricte pour les crèches.
Oui.
Alors, après.
Et les maternités.
Oui.
Non.
Non, il n'y a que crèches. Mais après, après primaire, lycée. Il n'y a pas de loi qui l'interdit. D'accord. Et c'est vraiment un appel aux élus. Vous voyez, quand vous êtes en primaire, je me souviens par exemple du maire de Soux qui me posait la question, j'ai la possibilité d'équiper en Wi-Fi ou en câble. Je lui ai dit, tu câbles. Ouais. Parce que là, au moins, on est sûr qu'il n'y a pas d'exposition au niveau des enfants. Et tout à l'heure, je vous disais que plus les enfants sont jeunes, plus les cellules sont en division, plus la paroi du crâne est mince, plus ils sont sujets à avoir des conséquences sanitaires. Donc, je veux dire, à partir du moment où on a la technologie qui permet de limiter l'exposition, utilisons-le.
D'accord.
Et par exemple, pour les lycées, ce qu'il y a, il faut informer les élèves en disant « attention ». Regardez les études, même sur la fertilité, ça joue, les ondes électromagnétiques. Moins vous allez utiliser cette exposition, plus vous allez avoir du câblage, ou même, vous voyez, quand il y a un spot Wi-Fi, mais vous exposez pas trop de temps, quoi. C'est la sobriété de l'exposition qu'il faut développer chez les jeunes.
Donc il faut, je pense que Jean-François a eu ça, la réponse qu'il attendait. Vous êtes satisfait de cette réponse, vous voyez?
C'était surtout aussi au niveau des gens qui sont équipés de pompes à insuline, par exemple, d'implants médicaux.
Ah, ça c'est un cas particulier.
Dans les établissements scolaires, je redoute que si on équipe en Wi-Fi, ces enfants ne puissent plus accéder à ces établissements scolaires.
Alors, ça, c'est une directive européenne. Ça joue sur l'électrocompatibilité. C'est-à-dire que tout appareil, les pompes à insuline, les pacemakers, etc., on ne doit pas dépasser sur l'exposition externe 3 volts par mètre. Donc, normalement, c'est blindé pour ça. Sauf que les pacemakers, on s'est aperçu que quand votre portable fonctionne, il peut aller jusqu'à 20 volts. Donc, on les a déjà. Maintenant, les pacemakers, c'est 10 volts, vous voyez, d'un point de vue barrière. Mais vous avez tout à fait raison. Des pompes à insuline, quand on est proche d'une borne Wi-Fi, parce qu'il faut être proche quand même, parce que le Wi-Fi, plus on s'éloigne, vous voyez, plus les niveaux d'exposition sont faibles. Mais c'est le portable le problème. Vous voyez, c'est le portable, et nous, on voudrait faire abaisser les recommandations au moins à 3 volts et pas à 41, 58, ou 60.
Les DECT aussi sont un problème dans les maisons.
Parce que c'est surtout l'utilisation des tablettes, puisqu'ils vont utiliser des tablettes.
Alors la tablette, on n'en a pas parlé.
Ils vont être près du Wi-Fi, en fait.
Ben, le problème de la tablette, c'est que en dehors du Wi-Fi, je vois pas comment ça fonctionne. Il semblerait qu'il y ait des connecteurs, qu'on puisse connecter des câbles RJ45, mais pour être passé à la FNAC il y a pas très longtemps, personne n'est informé. Donc voilà, donc la tablette égale Wi-Fi. Hein, donc ça a proscrire complètement.
Voilà, monsieur. Voilà, Jean-François. Merci de votre appel. Moi, j'aimerais beaucoup que l'on revienne quand même sur nos hypersensibles, nos témoignages de Madame Dubois et de Monsieur Garnier. Quels sont les symptômes que ressentent les hypersensibles? Et votre témoignage à vous, pouvez-vous nous expliquer, Madame Dubois? Peut-être on va commencer par comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça a entraîné chez vous pour la vie quotidienne?
Alors, pour moi, aujourd'hui, je suis en retraite pour invalidité de la fonction publique hospitalière. Mes problèmes ont commencé en 2009. On avait une maison à côté d'un transformateur. Donc, on reprend la notion de transformateur, de ligne de tension. Donc je ne pouvais plus dormir dans la maison. Ensuite, en 2010, l'hôpital a installé une Wi-Fi sur mon lieu de travail. Donc, je n'ai plus pu rester sur mon lieu de travail. J'ai fait de multiples tentatives. Je me suis littéralement épuisée.
Qu'est-ce que vous ressentiez? Vous aviez
des maux de tête, des problèmes de concentration, des vertiges, des nausées.
Et vous étiez la seule dans votre service à avoir ce type de...
Pour le moment, qu'il en parlait
au moins.
Après, personnellement, j'avais été sensibilisée déjà avec le transformateur. Donc, j'ai demandé l'adaptation de mon poste de travail. Je me suis fait aider de syndicats, de médecins du travail qui ont plaidé ma cause pour que je puisse travailler dans un autre service. Je n'ai pas eu de réponse de mon employeur. J'ai fait des démarches pour être reconnue travailleur handicapé. Donc, j'ai été reconnue travailleur handicapé et j'ai demandé, avec cette reconnaissance, d'avoir un poste adapté. Donc, à ce moment-là, mon employeur m'a proposé un poste aux archives de l'hôpital, dans une zone industrielle. Et je suis allée à la présentation de ce poste de travail. J'étais accompagnée de 2 médecins qui ont vu que j'étais en pleine forme quand je suis allée dans leur bureau. Ils me voyaient comme vous me voyez aujourd'hui. Et au bout d'un quart d'heure, elles ont vu que j'allais vraiment mal. Et elles m'ont dit, ça va pas. Et on a dû partir rapidement. J'étais en état de malaise. Elles ont fait un certificat dans ce sens, qu'elles ont signé, ces 2 médecins ont signé ce certificat. Et je me suis aperçue en regardant Cartoradio, donc un site qui permet de visualiser toutes les antennes relais, que la zone industrielle et le bâtiment dans lequel j'étais affectée étaient situés à 300 mètres de 3 antennes relais.
D'accord. Donc,
Donc après, j'ai été mis en invalidité. Moi, ça, c'est mon histoire personnelle. Maintenant, ce que je retiens de ça, c'est que les hôpitaux Les CHU sont tous, ou quasiment tous, en Wi-Fi. Pour l'hôpital de Grenoble, le service de prématuré, les services de maternité, les services de pédiatrie, les services de neurologie sont tous connectés en Wi-Fi. Et vraiment, je suis inquiète.
Et donc aujourd'hui, vous êtes...
Je suis en invalidité pour cause de... Compte tenu que l'hôpital n'a pas été à même de me proposer un poste sans Wi-Fi, alors que je suis capable de travailler. Je peux travailler, je demandais à travailler... J'ai demandé le télétravail, il m'a été refusé.
Monsieur Garnier, vous pouvez nous dire aussi quel est votre témoignage sur le sujet, puisque vous êtes hypersensible aussi.
Il est similaire au témoignage qu'on vient d'entendre de Marie. Je veux dire que moi, j'ai eu la chance d'avoir un aménagement de poste donc, qui s'est concrétisé par du télétravail. Donc, je travaille chez moi, dans, on va dire, une ambiance non polluée. Hein. Enfin, j'ai fait le nécessaire pour que ce ne soit pas pollué.
Quels symptômes ressentiez-vous à votre poste, enfin, dans votre travail ?
Une énorme fatigue. Une énorme fatigue. D'accord. Vraiment, la fatigue, c'est ça qui prédomine. Et, puis, les problèmes de concentration, comme vient de dire Marie, et l'impossibilité de travailler sur la bureautique communicante, surtout quand c'est l'outil qu'on utilise tous les jours hein, pour d'accord. son travail. Mmh. Donc voilà, c'est vraiment la fatigue et puis beaucoup de problèmes de concentration. Hein. Mmh. Moi, je voulais revenir sur l'employeur. Quels sont ses devoirs hein. C'est le Code du travail qui nous le dit. Hein. Je vais le lire, hein, puisqu'il nous précise qu'est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. On peut y mettre l'électrosensibilité sans problème. Hein. Et j'ajoute que l'employeur a l'obligation d'évaluer l'ensemble des risques psychosociaux auxquels sont soumis les salariés et de prendre les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et mentale ainsi que la sécurité des salariés. Donc la non-réponse de l'employeur de Marie ne se conçoit pas
ici. C'est pas normal.
Non, c'est pas normal.
Alors, à qui attribuez-vous l'échec de votre prise en compte d'hypersensibilité ? Est-ce que ce sont les médecins du travail ? C'est qui
pour, personnellement, je pense qu'on... Tout l'hôpital, les hôpitaux sont en Wi-Fi. Et une personne qui se déclare qui est électro-hypersensible, qui a des documents qui attestent de son électro-hypersensibilité, vient bousculer toute l'organisation professionnelle. Et on n'est pas souhaité, on ne souhaite pas qu'on reste dans l'entreprise. Ce n'est pas contre nous. Mais
la seule chose qui peut sauver l'électrosensible qui veut travailler, parce qu'il a on veut tous travailler,
bien sûr.
C'est la bienveillance de l'employeur. Moi, mon employeur, il m'a financé une tenue qui me permet de prendre le TGV, puisque de Lyon, je travaille pour Paris, donc je suis obligé d'aller dans certaines réunions à Paris, et il m'a financé. Vous voyez, la bienveillance, ça va jusque là.
Ouais.
Une tenue, donc un tissu sous veste qui me permet d'affronter le TGV, qui est une énorme cage de Faraday, il faut le savoir.
Oui, donc, oui, Michel Rivasi.
Moi, je pense que d'abord, il faudrait la reconnaissance de l'électro-hypersensibilité. Ça a été, vous avez dit en introduction que le dictionnaire, on le met, mais le dictionnaire, c'est pas
suffisant.
Les sciences. Et donc, lundi, il y avait une réunion à l'Académie royale de médecine de Belgique, organisée d'ailleurs, il y avait le professeur Bellepomme, il y avait monsieur Hardel, il y avait tous les grands pontes scientifiques du monde entier, qui lancent un appel à l'OMS pour dire, parce que l'OMS, elle le reconnaît, mais plus ou moins, pas en tant que telle, pour que l'OMS le reconnaisse vraiment en fonction de tous les symptômes, c'est quoi l'électro-hypersensibilité ? Et souvent, c'est associé d'ailleurs à la sensibilité chimique. Hein, vous voyez ce qu'on appelle l'ESC. Et donc ça, c'est une première chose. Après, vous savez que dans la loi Abeille, donc c'est les écologistes qui ont déposé cette loi, il y a la mention que l'agence sanitaire française, l'ANSES, doit faire un rapport sur l'électro-hypersensibilité. Parce qu'il y a peu d'études. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez indiqué, madame, vous pouvez pas venir dans les hôpitaux. Donc les électro-hypersensibles, c'est des gens qui sont pas captifs, puisque tous les hôpitaux sont équipés de Wi-Fi. Donc il faut créer des zones blanches. Vous voyez, des zones où il n'y a pas cette pollution électromagnétique pour que les gens puissent venir et qu'ils soient suivis scientifiquement. Alors, le professeur Bellepomme en a suivi 1200 en France, mais on pense qu'il y en a beaucoup plus. Mais il faut vraiment qu'on ait une étude. Et moi, je milite pour qu'on ait véritablement une zone blanche où il y a un suivi, où on a une recherche sur c'est quoi les électro-hypersensibles et comment on peut les traiter.
Au niveau de la France ou au niveau de l'Europe plus particulièrement? Alors, puisque vous êtes sur le terrain européen vous-même.
Au niveau déjà international, l'OMS, oui. Hein, et même l'ONU. Mmh. Après, sur le plan européen, moi, je travaille pour qu'il y ait un rapport d'initiative sur l'électro-hypersensibilité. Mmh. Et puis, au niveau de la France, regardez la Suède. La Suède l'a reconnu, l'électro-hypersensibilité. Eh bien, dans le TGV, alors, ils n'ont pas un TGV, mais ils ont un train, il y a des wagons qui sont spécifiques pour les électro-hypersensibles. Mmh. Il y a des quartiers, par exemple. Ouais. Voilà. Parce qu'il faut qu'ils se déplacent, ces gens-là. Mmh. Ils ne vont pas rester exclus, parce que sinon, ils sont complètement discriminés. Mmh. Et il y a des quartiers aussi où on demande à ce qu'il n'y ait pas d'antenne relais. Mmh. Vous voyez, pour que ces gens-là puissent vivre avec la société. Parce que moi, ce que je suis très touchée, moi, par les électro-hypersensibles, parce que beaucoup me téléphonent et je vois, et ça touche beaucoup de femmes d'ailleurs, enfin des hommes aussi, mais beaucoup de femmes. Et quand je vois ces femmes-là qui ont été ingénieures, qui ont travaillé, vous voyez, dans les télécoms, etc., et qui maintenant sont vraiment elles ne tolèrent plus cette pollution. Il faut qu'on trouve des grottes, vous voyez, où elles puissent se réfugier. Oui. Il faut qu'on trouve des endroits dans des forêts où il n'y a pas d'antenne relais, etc. Mais c'est terrible.
C'est épouvantable, oui, c'est vrai.
Mais comment... parce que on ne sait pas, alors, vous voyez, en tant que scientifique, on ne sait pas exactement tout expliquer d'un point de vue biologique, mais en tout cas, ces personnes-là existent, elles souffrent. Donc, il faut les prendre en compte et trouver des solutions. Et ensuite, on trouvera les modèles scientifiques pour expliquer le pourquoi du comment.
Docteur Gabriel.
Oui, je vous rejoins complètement, je te rejoins complètement dans la nécessité d'avoir des études sérieuses et qui soient irréfutables. Mais je constate cependant que j'ai quand même regardé le rapport de Dominique Chouda et j'ai lu une lettre du professeur Belpomme. Bon, bah, la lettre du professeur Belpomme critiquant la méthodologie de Dominique Chouda, bon, elle tenait pas la route. Donc le professeur Belpomme, c'est un cancérologue, il a soigné des malades qui étaient atteints de cancer, c'est sa spécialité, c'est ce qu'il sait. Alors maintenant, ses compétences en matière d'électro-hypersensibilité, je pense pas qu'on puisse vraiment se réfugier derrière le professeur Belpomme. Donc faisons des études sérieuses, mais j'aimerais bien que...
Les études, mais la prise en compte des malades pour le moment. Il ne faut pas les oublier, cela. Hein.
Alors, absolument. Il est évident, je trouve ça tout à fait scandaleux qu'on n'ait pas trouvé une solution pour vous. Les hyper-électrosensibles, bon, il faut effectivement s'intéresser à eux. Et heureusement, M. Garnier, que vous avez pu avoir un employeur qui a compris que votre cas et qui vous a aidé.
Oui, si vous voulez bien, nous allons faire une deuxième pause musicale avec Ben C. Au grand jamais.
Regardez, est-ce que je tremble? Non, jamais, plutôt crever laisser la vie me descendre. Non, jamais, jamais, au grand jamais. Jamais, regardez-moi, est-ce que je tremble? Non, jamais, plutôt crever que laisser la vie me descendre. Non, jamais, au grand jamais, et achevez-moi si je tremble, car jamais, au grand jamais.
Parole, votre magazine interactif en direct en Drôme et en Ardèche avec Léna Balzan.
Devons-nous avoir peur des ondes électromagnétiques? C'est le sujet de notre émission « À vous la parole » aujourd'hui, avec nos invités Marie-Christine Dubois, électro-hypersensible de l'association Poème 26, Jean-Michel Garnier, électro-hypersensible également, vice-président de Une Terre pour les électro-hypersensibles, Michèle Rivasi, députée européenne, conseillère municipale de Valence, et le docteur Luc Gabriel, médecin urgentiste, représentant l'association UFC Que Choisir. Alors, nous avons présenté grosses difficultés, les gros problèmes de santé de nos intervenants ici sur le plateau. Je voudrais vous demander aux uns et aux autres quelles solutions peuvent être préconisées concrètement aujourd'hui en France, en Europe. Qu'en pensez-vous? Y a-t-il des solutions? Parce qu'il sera difficile de revenir vraiment en arrière pour éviter les portables, éviter les Wi-Fi. Donc, on part avec une situation quand même difficile et existante. Que faire? Que pensez-vous qu'il soit possible de faire? Oui, docteur Gabriel.
Oui, il y a eu une étude de Supélec sur l'exposition aux ondes électromagnétiques qui montrait qu'en France, la première cause d'exposition, c'était le portable. Donc, effectivement, il y a des conseils, enfin, pas chez les enfants. Arrêter son portable dans sa voiture pour des raisons de pollution électromagnétique et surtout pour des raisons
de sécurité.
De sécurité routière et d'attention. Donc, utiliser les oreillettes plutôt que les mettre directement.
Le kit piéton.
Donc ça, je crois que c'est le kit piéton. Donc je crois que c'est des choses très simples à faire et qui permettent de, dans le doute, parce que je répète, il y a toujours un doute et j'aimerais bien qu'on puisse avoir des études irréfutables sur le sujet. Mm-hmm. Donc voilà ce qu'on pourrait dire pour le portable. Quoi.
Principe de précaution.
Prévention quand même.
Prévention.
Oui, parce qu'on connaît quand même les risques, même si tout n'est pas bétonné, comme vous le dites. Mais enfin, sur l'amiante, on a mis, je ne sais pas combien d'années. Hein.
Ouais. Donc, mais l'amiante, on pourrait en parler. Oui. On savait très bien que l'amiante était dangereux. Alors, il y a eu un comité national de l'amiante, dans lequel siégeaient des pneumologues qui se sont laissés complètement acheter. C'est honteux. C'était un véritable scandale, l'amiante. Alors, il y a un autre scandale qui me paraît aussi important, même plus important que le tabac, évidemment, et il y a le scandale du sel. Bon, on sait que dans les populations où il n'y a pas de sel, il n'y a pas d'hypertension. Or, vous savez qu'à partir de 65 ans, la moitié de la population est hypertendue. Mmh. Donc, on n'en parle pas. Alors, au niveau de la santé publique, il y a des tas de scandales extraordinaires qui mobilisent peut-être plus que l'hypersensibilité.
Oui. Mais c'est là, aujourd'hui, nous parlons de ce sujet. Oui,
je voudrais dire, je suis tout à fait d'accord cibler quand même sur le portable, dire aux parents, pas de portable jusqu'à 14 ans. Mmh. Voilà. Parce que là, on les angoisse en disant, je sais pas où est mon enfant. Non, pas de portable jusqu'à 14 ans. Et dans les écoles, pas de portable dans les salles de classe, quoi. Parce que là, il y a de plus en plus, une utilisation abusive. Sur le Wi-Fi, nous, on milite pour qu'on puisse éteindre le Wi-Fi. Il faut éteindre le Wi-Fi la nuit. Mmh. Pour que la nuit, parce qu'il y a une certaine réversibilité. Si il y a des effets biologiques, par exemple, sur les synapses, la nuit, il faut qu'il n'y ait aucune pollution électromagnétique. Mmh. Donc ça, c'est important. Autre chose, sur le plan européen, nous, on se bagarre pour qu'on diminue les normes, parce que vous voyez, 41 volts, c'est beaucoup trop. Mmh. Tout à l'heure, on parlait de la pompe à insuline. Il faut vraiment diminuer à minima à 3 volts. Et puis, certains scientifiques parlent de 0,6 volts. Mmh. Et il faut arrêter de penser que plus une city, parce que maintenant, la mode, c'est de parler des villes connectées. Mmh. Mais il y aura une pollution, ce qu'on appelle un électrosmog, énorme sur, vous voyez, les ondes. Donc, il faut absolument se déconnecter de ces ondes et faire en sorte à ce que aller sur la sobriété, c'est-à-dire au niveau de votre portable, moins vous l'utilisez, mieux on se porte avec un kit, tout ça. Surtout pas mettre le, voyez le, parce que les jeunes filles mettent souvent le portable sous l'oreiller en se disant elles s'en servent comme réveil. Ouais, ouais. Ben alors toute la nuit elles sont polluées par ces ondes. Donc il y a des choses simples, pas de Bluetooth aussi, les babyphones, voyez à côté de la tête d'un enfant, parce que ça aussi ça émet. Le Wi-Fi, il faut vraiment. Et puis moi je m'adresse aux mères. Pas de Wi-Fi dans les écoles primaires, au niveau des lycées, qu'il y ait des spots qu'on informe bien. Vous voyez, il faut l'information au niveau des lycéens.
J'allais vous poser le problème de l'information, donc de la prévention, et en particulier de l'information. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Europe? Il y a des informations particulières sur le sujet ou pas spécialement?
Écoutez, au niveau de l'Europe, oui, bah, il y a quelques informations, mais... Moi, je vois les députés européens, ils sont tous avec leurs tablettes, leurs portables, etc. C'est nous qui organisons des colloques, qui invitons des gens pour leur dire attention. Mais il y a une prise de conscience parce que pratiquement énormément de députés utilisent les kits oreillettes parce qu'ils se sont aperçus qu'à la fin de la journée, ils avaient une tête, mais comme un melon.
Donc, c'est moins, vous me confirmez que c'est moins dangereux de mettre des oreillettes plutôt que son portable à l'oreille.
Oui, oui, tout à fait.
Donc, il faut inciter les jeunes à... Oui, monsieur
Garnier. Juste une petite note d'humour. En fait, au conseil régional, pour prendre la parole, on la demande sur son smartphone avec une application spécifique.
Les institutions même, sont à fond, oui, docteur.
Oui,
Gabriel.
Puisqu'on parle, enfin, il faut savoir que à partir de quand on s'éloigne d'une source, l'intensité du rayonnement diminue comme le carré de la distance. Donc, plus on s'éloigne, plus l'exposition est faible.
Je veux dire, au niveau d'une ville, il faut quand même se méfier où c'est des antennes relais. Mmh. Et sur Valence. On est quand même une ville très particulière où on a lancé une cartographie sur les champs électromagnétiques. C'est-à-dire que si un opérateur vient maintenant, on a à peu près modélisé l'ensemble de la ville. Et s'il y a une augmentation du champ électromagnétique, on a même ciblé les appartements, vous voyez, qui sont dans l'axe. Eh bien, on demandera aux opérateurs de diminuer ou d'éviter de mettre cette antenne relais à cet endroit-là. Donc, c'est une première. Ça va être publié dans quelques mois parce qu'il y a des calages là qui sont en train d'être faits. Mais je trouve que ça, vous voyez, c'est vraiment une mesure de prévention. C'est-à-dire que plutôt que de ramasser plein d'antennes sur un toit donné avec des gens qui seront impactés, eh bien, il vaut mieux disperser.
D'accord.
Mais moi, j'aurais aimé aussi qu'un quartier de Valence, vous voyez, soit soumis à ces champs pour que des gens comme Madame Dubois, comme M. Garnier, puissent s'installer parce qu'ils ne supportent pas les ondes.
Bien sûr. J'allais justement vous demander vos préconisations à vous, électro-hypersensibles, qu'est-ce que vous souhaiteriez?
Une information par les médias qui invite nos voisins à éteindre le Wi-Fi, les box la nuit, à faire attention aux enfants, enfin qu'on puisse vivre correctement en milieu urbain. Il faut arrêter de dire que les électrosensibles, ce sont forcément des gens qui sont dans des caravanes au fond d'un bois. Ça, c'est pas vrai. On est tous quasiment à 95% en milieu urbain. Et on tient à y rester parce qu'on n'est pas des hommes de caverne. On veut pas aller dans les cavernes, dans les bois. Donc, il faut que nos voisins soient informés par les pouvoirs publics qu'il y a un danger, qu'il y a peut-être un électrosensible qui vit à côté de chez eux.
Et on se rend compte dans les associations qu'auparavant, c'était plutôt des femmes de 50 ans qui étaient touchées. Maintenant, on a les hommes qui sont touchés. Les tranches d'âge, ça se rapproche de 30 ans. Et on a aussi des très jeunes enfants qui arrivent accompagnés de leurs parents et ces enfants sont électro-hypersensibles. Donc là, il y a réellement une évolution qui est dramatique.
Donc les associations dans lesquelles vous militez sont faites pour accueillir justement ces personnes qui se posent des questions.
Tout à fait. Les associations et notamment donc Poème 26 a trois axes. Un axe qui est d'informer, de convaincre avec des prises de mesures. Un deuxième axe qui est accueillir, informer. Quand vous devenez électro-hypersensible, ça vous arrive d'un seul coup. Et votre vie bascule. Donc, il y a un moment où il faut vraiment être épaulé pour pouvoir vivre au mieux ce passage-là, pour essayer de retrouver un équilibre quand l'équilibre est possible d'être retrouvé. Et puis, nos associations travaillent aussi pour faire bouger à la fois le politique, à la fois le corps médical et à la fois le corps enseignant et l'employeur.
Et la reconnaissance du handicap par les MDPH.
MDPH, maison départementale.
Des personnes handicapées.
Des personnes handicapées, d'accord.
Juste un mot pour ne pas me fâcher avec l'ARTAC. Hein. C'est l'Agence pour la recherche thérapeutique anticancéreuse. Voilà,
merci,
excusez-moi, l'ARTAC.
Madame Dubois, vous vouliez nous parler d'une manifestation, je crois, qui va se dérouler.
Oui,
Et puis d'un petit dépliant, effectivement.
Plusieurs choses, effectivement. Donc, pour informer les jeunes, je reviens sur ce dépliant qu'on a, qui est très bien fait et qui se. donc. Avec le sans fil, ta santé ne tient qu'à un fil. On a également un format A4 qui explique comment organiser sa chambre pour qu'elle soit le sommeil soit le plus réparateur. Et puis prochainement, l'association Poème 26 organise. Alors c'est le, j'ai perdu le. Organise une projection d'un film Cherche Zone Blanche désespérément. C'est le 4. Je vais retrouver la date, je vous la communique tout à l'heure. Là.
Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour votre présence à tous les quatre. Cette heure est passée très vite. On aurait pu encore dire des mille choses. Merci à Marie-Christine Dubois, à Jean-Michel Garnier, au docteur Jean-Luc Gabriel et à Michel Rivasi.
Merci à vous.
C'était une émission sur les ondes électromagnétiques. On y reviendra sûrement dessus dans l'avenir. Je vous souhaite un excellent week-end. Je remercie aussi Baptiste Lodéon pour la réalisation de cette émission. Bon week-end, à la semaine prochaine.